Culture Média.
Finish, mais pas en beauté. On commence ce journal des médias avec la fin d'un magazine, Cyril.
Oui, on commence donc avec une triste nouvelle, une nouvelle qu'on a malheureusement vue venir depuis quelques semaines. Le magazine Grazia ne paraîtra plus dans les kiosques. C'est une information de nos confrères de Stratégie. Le nouveau propriétaire de l'hebdomadaire Reworld Media a décidé d'ouvrir un PSE. C'est un plan de sauvegarde de l'emploi pour les 16 derniers salariés du magazine. Le numéro 529, paru fin mars, aura donc été le dernier de Grazia version française. 11 ans après son lancement en France, l'hebdomadaire né en Italie ne sera plus disponible en version imprimée, mais la marque va continuer d'exister sur le numérique. Selon Stratégie, 5 podcasts devraient voir le jour durant l'été et un MOOC trimestriel sortira en octobre. Un MOOC, c'est une sorte de mélange entre un magazine, revue et un livre.
Book, donc.
Non.
C'est entre magazine et book.
Oui,
pour qu'on comprenne le hook.
Ah oui, d'accord, le MOOC, voilà.
C'est, book, c'est le hook de book.
D'accord, très bien.
Voilà.
Ce MOOC, Grazia, donc, sera produit en externe et donc plus par une rédaction dédiée.
Cyril, on a plus d'informations concernant le plan de restructuration d'Altice, pardon.
L'intersyndicale de Next Radio TV a dévoilé les contours du fameux plan de reconquête du groupe Altice. Plan de reconquête, c'est le terme qu'avait utilisé Alain Veil, le patron du groupe, pour annoncer cette vague de départ. Et cette reconquête va coûter très cher sur le volet social. Selon l'intersyndicale, le plan de départ volontaire va concerner entre 330 et 380 CDI sur les 1600 salariés que compte le groupe. 200 pigistes et intermittents devraient également faire les frais de cette restructuration. Au total, ça représente pas loin d'un salarié sur trois menacé par ce plan. Les représentants des salariés appellent maintenant à une assemblée générale le 23 juin pour décider des actions à mener pour protester contre les décisions de la direction d'Altice.
Et Altice, c'est notamment BFM et RMC. C'est hier à ce micro, Stéphane Albouy, le directeur des rédactions du Parisien, était venu présenter le nouveau projet éditorial du quotidien. Un nouveau projet qui est loin de faire l'unanimité parmi ses salariés.
Et oui, on peut même carrément parler de rejet. Hier, les salariés rassemblés en assemblée générale se sont prononcés sur les projets de leur direction. 255 ont voté contre, 79 ont voté pour et 35 se sont abstenus. Ce que les salariés reprochent, c'est la transformation des pages régionales. Terminer les éditions dédiées à chaque département, place à un cahier unique de 12 pages où seront regroupés tous les reportages des équipes locales et qui sera le même que vous habitiez à Paris, en Seine-et-Marne ou dans l'Oise. Nous avons joint hier, après l'AG, Olivier Corsan, élu SNJ au sein du Comité social et économique du Parisien, où il est reporter photographe depuis 23 ans, et nous explique pourquoi les salariés rejettent ce projet éditorial.
Ça touche à l'identité, à l'ADN même du Parisien. La rédaction et au-delà de ça, les salariés du Parisien sont très attachés à cela. Parce que cette information locale et départementale, c'est notre force et notre richesse. Les politiques et les médias sont aujourd'hui considérés souvent très loin, entre guillemets, de la population. Eh bien, nous, il faut savoir qu'au Parisien, il y a à peu près 130 journalistes qui, tous les jours, travaillent exclusivement sur l'information de l'Île-de-France, à peu près une dizaine dans chaque département. Et tous les jours, il y a des pages là-dessus, sur l'actualité département. On ne veut pas en banlieue uniquement quand ça brûle. On y va tous les jours de l'année. Alors, bien entendu, le choix de la direction n'est pas de supprimer totalement la présence des journalistes dans les départements, mais c'est de la réduire considérablement. Et surtout, ce qui nous inquiète, c'est que demain, on se dit quel va être l'espace éditorial dédié à cette information. Et là, là-dessus, on n'a pas de réponse satisfaisante de la part de la direction.
Les équipes du Parisien demandent donc qu'il n'y ait pas de suppression de postes et d'emplois. Une trentaine sont prévues et ils demandent le rétablissement d'un espace dédié à chaque département sur les éditions print et le site du Parisien. Dans ce contexte de tension et d'affrontement, est-ce qu'il faut craindre une grève des salariés ? La réponse du délégué SNJ.
En tout cas, certains souhaitaient clairement la grève, d'autres ne la souhaitaient pas aujourd'hui, pensaient que c'était pas encore opportun de l'envisager. Mais ce que je sais, c'est que si aujourd'hui la question pouvait se poser demain entre les salariés, si oui ou non une grève était envisageable, je pense que si la semaine prochaine, si on a une fin de non-recevoir quant à cette volonté de négocier et de construire quelque chose ensemble avec les salariés, à ce moment-là, si ça est balayé de la main de la part de la direction, là, je pense qu'il est fort probable que les salariés, comme ils l'ont montré aujourd'hui, se mobilise pour envoyer une réponse et un message beaucoup plus dur au groupe LVMH, qui est propriétaire du Parisien.
La semaine qui arrive sera donc décisive pour savoir si un accord peut être trouvé ou si l'apparition du journal risque d'être menacée.
Et puis au journal L'Équipe également, la crise couve.
Il y a 10 jours, la direction du quotidien sportif annonçait à son tour un plan de transformation avec des mesures choc pour les salariés. Augmentation du temps de travail par la suppression de RTT et réduction des salaires de 10%. En échange, la direction de L'Équipe s'engageait à ne pas procéder à des licenciements jusqu'en 2024. Le journal prévoit une perte d'exploitation proche de 16 millions d'euros cette année, alors qu'il avait gagné pas loin de 5 millions l'an dernier. Hier, 255 salariés de l'équipe ont signé une lettre dans laquelle ils écrivent refuser que la direction touche à leur salaire et à leurs jours de congé. Ils disent également qu'ils ne participeront pas aux réunions d'information prévues dans les prochains jours. Les signataires rappellent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts depuis des années, qu'ils ont subi une dégradation permanente de leurs conditions de travail et que, dans le même temps, les plans sociaux se sont succédés. Ces 255 salariés disent faire confiance à leurs élus pour les représenter lors des futures négociations.
Et puis, sans transition, comme disait PPD dans les Guignols, un petit nouveau du côté de C'est dans l'air.
Les vacances approchent pour tout le monde, mais toutes les émissions ne s'arrêtent pas. C'est le cas de C'est dans l'air sur France 5. Le programme de fin d'après-midi s'est donc trouvé un nouveau joker. Il s'agit de Bruno Duvic, le journaliste qui présente la tranche d'information de la mi-journée de France Inter. Bruno Duvic va donc remplacer d'abord Axel de Tarlé le vendredi 3 et samedi 4 juillet. Puis il reviendra à l'antenne du 3 au 15 août, cette fois pour s'occuper des émissions de la semaine et du week-end.
Et puis on a des nouvelles de la loi sur la réforme de l'audiovisuel. Enfin, la loi, l'arlésienne,
la fameuse,
depuis le temps qu'on l'annonce.
Ce qui s'annonce, en fait, c'est une vente à la découpe. Édouard Philippe a reçu hier 10 dirigeants de l'audiovisuel privé et public pour leur dire que la grande loi que devait porter le ministre de la Culture serait finalement saucissonnée. Concrètement, le Premier ministre a annoncé la création d'un crédit d'impôt sur les investissements dans les programmes et la création. En juillet, le gouvernement publiera également un décret pour assouplir les règles sur la publicité à la télévision et supprimer les fameux jours interdits. Vous savez, ce sont ces jours comme le mercredi ou le samedi soir où les chaînes de télé n'ont pas le droit de diffuser des films de cinéma. Et en juillet toujours, le gouvernement fera entrer dans le droit français une directive européenne importante qui obligera les plateformes comme Netflix et Disney Plus à participer au financement de la création.
C'est en gros ce que nous annonçait le sénateur André Gattolin il y a deux jours à ce micro, mais il manque encore une bonne partie du texte, Cyril.
Et oui, effectivement, on vous a pas mal parlé de la création d'une holding regroupant l'audiovisuel public. Eh bien, ce sujet a clairement du plomb dans l'aile. Si le Premier ministre dit que les autres dispositions du texte seront examinées dans un autre texte en septembre, seuls y figureront les éléments les plus urgents. Et qu'est-ce qui est urgent? Eh bien, on le saura cet été, après un arbitrage au plus haut sommet de l'État. Et tiens, puisqu'on parle de l'audiovisuel public, on ne sait toujours pas ce qu'il en sera de France 4 et de France O. Les deux chaînes doivent fermer le 9 août, mais cette fermeture est suspendue à un arbitrage, devinez de qui? Eh bien, du plus haut sommet de l'État.
Eh bien, justement, on reste au sommet pour finir. Vous vouliez terminer par le nouveau chouchou des Français.
Eh oui, le nouveau chouchou des Français, selon un sondage TV Mag Opinionway, eh bien, c'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du 13h de TF1, est le numéro 1, la personnalité préférée de la télé pour les Français. C'est la première fois qu'il accède à ce sommet du classement. Il a gagné 6 places par rapport à l'année dernière. En deuxième position, c'est Stéphane Bern qui gagne lui 4 places. Et troisième position pour Nagui qui occupait la première place l'an dernier. Bravo Jean-Pierre.
Et Michel Simès?
Michel Simès, il est 5e.
Merci, le Cam, il est dans le quintet. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau Journal des Médias.